La compagnie des auteurs, épisode 3. Nous continuons aujourd'hui à explorer la littérature et la vie de l'écrivain Paul Morand. Paul Morand, écrivain capital du XXe siècle, qui a grandi au milieu des artistes que fréquentait son père, artiste lui-même, Sarah Bernhardt, Rodin, Mallarmé, étaient des familiers de la maison. Morand, qui se décrivait comme un adolescent paresseux, inattentif et superficiel, et qui a pourtant embrassé avec succès la carrière diplomatique et surtout la carrière d'écrivain, puisqu'il sera, dans l'entre-deux-guerres, l'un des auteurs les plus en vue de France. Nous en parlions lundi avec Michel Collomb. Ses nouvelles en particulier étaient partout célébrées. Des nouvelles, justement, il en a été beaucoup question hier avec Catherine Douzou, qui nous a parlé de la sécheresse du style de Morand, ce qui en fait d'ailleurs toute la qualité. Sécheresse qui renvoie peut-être aussi à sa difficulté de communiquer avec les autres, style sec pour un cœur sec, diront certains, mais qui peut tout à la fois se lire comme un refus des grandes théories, des grandes philosophies, lesquelles n'ont par essence pas leur place dans un format court comme celui de la nouvelle. Demain, nous parlerons de la vision de Morand sur l'Afrique entre clichés anthropologiques et célébration du génie noir, avant d'achever cette semaine sur la figure de la femme sportive dans ses romans. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous revenons sur une amitié capitale de l'après-guerre pour Paul Morand, celle qu'il a entretenue avec le jeune hussard Roger Nimier, auteur entre autres des très remarqués romans Le Hussard Bleu et Les Épées, deux livres qui avaient fait de lui à l'époque, disait-on, l'un des meilleurs écrivains de sa génération. C'est cet écrivain et éditeur chez Gallimard qui va chercher par tous les moyens à faire sortir l'auteur d'Ouvert la nuit de son purgatoire.
Vous savez que tous les écrivains connaissent après leur mort une sorte de purgatoire, c'est-à-dire qu'ils sont abandonnés du public jusqu'à ce qu'ils retrouvent ensuite leur vrai public et leur éternité. Eh bien, je crois que Paul Morand aura connu son purgatoire de son vivant, c'est-à-dire que toute la période qui a succédé à la fin de la guerre, celle où il n'a pas pu entrer à l'Académie française parce que le général de Gaulle s'y était opposé, a été un purgatoire politique, littéraire et social pour Paul Morand. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il est sorti de ce purgatoire et que ceux qui, comme moi, l'ont pu le connaître, ont pu voir tout ce qu'il y avait chez Paul Morand, non seulement d'étincelant, puisque c'était un homme et sa littérature emporte témoignage d'une qualité intellectuelle exceptionnelle, mais aussi caché à de très grandes profondeurs tout ce qu'il pouvait y avoir chez lui de sensible, d'émotif et en vérité de générosité du cœur.
Bonjour Marc Dambre.
Bonjour.
Vous avez reconnu cette voix ? C'est la voix de Jean d'Ormesson dans une archive de 1977 qui raconte comment Morand a connu son purgatoire durant sa vie. Est-ce que ce purgatoire est réellement terminé d'ailleurs ? Est-ce qu'il n'est pas encore aujourd'hui dans une forme de purgatoire selon vous ?
Je crois qu'effectivement, il n'est pas véritablement sorti de ce purgatoire, mais ce purgatoire était beaucoup plus sensible, bien sûr, dans les années 50, puisque Roger Nimier, malgré les efforts qu'il a déployés, n'a pas réussi, tant qu'il était vivant, à le sortir de ce purgatoire. Par exemple, lorsqu'il lance, ou relance plutôt, Ouvert la nuit, fermé la nuit, c'est un échec en 57.
Alors on va reparler évidemment de cela et de la relation entre Nimier et Morand, mais avant cela, vous, personnellement, qu'est-ce que vous retenez de la littérature de Paul Morand ? Qu'est-ce qu'éventuellement vous relisez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est resté pour vous le plus important ?
Les œuvres personnelles, d'une certaine manière, me paraissent très attachantes, en raison même du caractère secret.
Donc vous voulez dire les lettres, le journal ?
Le journal inutile, les correspondances, me paraissent tout à fait de grande importance, en dépit de tout le mal qu'on peut dire, par exemple, du journal inutile. Je trouve que c'est un livre vraiment passionnant, avec des scories, certainement, mais combien de diamants, combien de portraits, enfin, c'est un livre qui me paraît très attachant. Justement, vous parliez, Jean d'Ormesson parlait du cœur, et je pense que dans le journal inutile, c'est là qu'on peut le sentir très bien, en particulier, bon, par rapport à Roger Nimier, mais surtout par rapport à Hélène Morand. Et donc, évidemment, c'est sur un mode d'expression qui n'est plus, qui n'a plus cours aujourd'hui.
On peut rappeler que c'est un journal qu'il tient pour lui-même après la fin de la correspondance avec Chardon, Nimier, tous ces gens qui sont morts avant lui.
Oui, c'est-à-dire que bon, la correspondance Chardon-Morand était une correspondance littéraire et chacun des deux compères trouvait en l'autre une sorte de boîte à lettres. Il y avait quand même l'idée de faire un grand livre plutôt que de cultiver forcément une relation intime. À partir du moment où Chardon est mort, Morand a continué d'écrire et c'est devenu le journal inutile, en fait. Donc il y a une sorte de continuité.
Et alors ce journal inutile, il est en effet d'une grande liberté, puisqu'il ne se censure jamais et qu'il souhaitait qu'il soit publié très longtemps après sa mort. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse en particulier? C'est ça qui vous touche?
Non, parce que je parle des œuvres, disons, personnelles, intimes, mais je relis très volontiers les nouvelles. J'ai préfacé Le Flagellant de Séville. Évidemment, je ne considère pas que le plus important de Morand est du côté de la correspondance et du journal inutile. Mais je pense que ces livres font partie intégrante de l'œuvre et qu'elles en donnent une idée beaucoup plus complète et élargissent la palette du talent de Morand.
Alors vous êtes surtout, j'ai envie de dire, un spécialiste de Roger Nimier. Vous êtes le biographe de Roger Nimier. Votre livre biographie donc de ce hussard apparu chez Flammarion en 1989. Avant cela, vous aviez édité la correspondance Chardon-Nimier 1950-1962. Et très récemment, en 2015, toujours chez Gallimard, vous avez établi et annoté la correspondance Morand-Nimier qui s'étale sur la même période. On peut peut-être commencer par raconter, Marc Dambre, comment ces deux-là, Morand et Nimier, se sont trouvés.
Ils se sont trouvés, ou plutôt c'est Paul Morand qui est allé chercher Roger Nimier, puisque la première lettre est de Paul Morand à propos du Grand d'Espagne. Et précisément dans le Grand d'Espagne...
Donc c'est Nimier qui est allé chercher Morand, pas le contraire, c'est lui qui envoie la première lettre.
C'est Morand qui écrit à Nimier. C'est lui qui va chercher Nimier, parce que Nimier publie le Grand d'Espagne.
Oui, ça, mais il lui envoie, disons que Nimier lui envoie le Grand d'Espagne.
Oui, si voilà. Vous voulez, effectivement. Mais dans le Grand d'Espagne, vous ne trouverez pas un titre de Paul Morand, ni même le nom de Paul Morand, non plus que de Chardon. Donc, c'est après que ses aînés sont venus le chercher, d'une certaine manière. D'ailleurs, la première lettre de Morand est claire. « Je mise sur vous et je ne veux pas perdre ». Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Il est très honnête de ce point de vue-là.
Donc, dans la biographie de Nimier, avant le Grand d'Espagne, il n'est pas fait mention d'une admiration particulière ni pour Chardon ni pour Morand.
Absolument pas. Non, disons que, par exemple, Chardon était... pour Nimier, un auteur un peu ennuyeux. Il était très jeune. Il ne faut pas oublier que Les Épées, il publie ce roman à 23 ans. Et donc, non, pour lui, c'était des histoires de couples, de couples bourgeois, etc. La princesse de Clèves sans cesse recommencée, ça n'est pas très amusant. Donc, voilà. Et Paul Morand, il avait certainement lu des livres de Paul Morand, mais... il n'y avait pas de rencontre particulière. L'auteur, à l'époque de... ou les auteurs de Nimier, qui le resteront d'ailleurs, c'est Marcel Aimé et Céline.
Et Valérie Larbeau.
Pardon ?
Et Valérie Larbeau.
Ah oui, bien sûr, Valérie Larbeau. Mais donc, il va les voir, carrément.
Ouais. Donc il y a une espèce de pacte qui se noue entre eux, si je comprends bien. Morand demande à Nimier de le réhabiliter et Nimier, il voit aussi son intérêt, c'est ça ?
Non, je crois qu'il n'y a pas tellement d'intérêt de nier, si ce n'est le goût des causes perdues, d'une certaine manière, et puis un peu un réflexe de justicier. Nimier, c'est quelqu'un qui n'aime pas la police et ce genre de choses, et donc il trouve répugnant ce qui s'est passé après 45. Et il trouve que, bon, c'est une réaction très saine, il a 25 ans à ce moment-là, de dire, bon, ben, pourquoi avoir puni pour continuer de punir alors que la guerre s'éloigne, etc. Et voilà, c'est la réaction. Et donc, systématiquement, et aussi parce qu'il a un peu par dandisme, le goût de déplaire. Et donc, c'est une manière de cultiver sa mauvaise réputation. Il y a cette manière d'aborder la société littéraire. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, Nimier n'est pas journaliste ni écrivain. Il est simplement, il gagne sa vie d'abord dans la philatélie, et ensuite il fait des affaires. Et voilà, et tout d'un coup, on lui confie la rédaction du journal Opéra. Il a 25 ans, c'est juste après le Hussard bleu. Il dit, belle occasion de faire revenir à la lecture de ces auteurs qui ont été condamnés, pour lui, injustement, dans la mesure où ça traîne. Et que, de toute manière, on en est, de toute manière, à la fin de l'épuration.
Alors, il y a Opéra, qui est un levier, puis il y a aussi Gallimard, parce que Nimier est aussi éditeur chez Gallimard. Et donc là, il va essayer de rééditer, de regrouper aussi tous les écrits de Paul Morand et de les republier.
Oui, donc Opéra, c'est 51, il entre chez Gallimard en fin 56. Donc de 51 à 56, il utilise les magazines ou les journaux auxquels il collabore ou qu'il dirige pour publier du Morand. Et quand il devient conseiller littéraire chez Gallimard, effectivement, il est chargé de s'occuper, si je puis dire, de Morand comme de Céline et de Jouhandeau et d'autres.
Vous avez eu une très importante correspondance avec Jacques Chardonne. Est-ce que vous avez d'autres correspondants aussi ?
Non, c'est la seule. C'est la seule. Et quand Chardonne est mort, je me suis écrit à moi-même parce que je n'avais plus de correspondant.
Et vous continuez à vous écrire à vous-même ?
J'écris à moi-même. J'écris à moi-même et tout ça va à la Bibliothèque nationale. Elle sera rouverte en l'an 2000.
Et vous vous écrivez tous les jours ?
Pratiquement tous les jours, oui.
Que vous dites-vous ? Que vous racontez-vous ?
Ce qui me passe par la tête, ou des réflexions, ou des lectures, ou des entretiens.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Paul Morand avec Marc Dambre. Paul Morand qui finira donc par s'écrire à lui-même après, je le disais, la mort de ses correspondants favoris. Car on a parlé d'un duo jusqu'à présent, Nimier et Morand, mais c'est en réalité un trio dont il faut parler. Nimier, Morand et Chardonne, Marc Dambre.
Oui, alors il est intéressant de voir que les premières années, c'est un dialogue, en effet, une sorte de trio avec des relations qui sont assez secrètes d'une certaine manière, où il y a encore des réticences et la correspondance n'est pas intense. Il y a à ce moment-là, je crois, une cinquantaine de lettres jusqu'en 56, aussi bien entre Chardonne et Morand qu'entre Morand et Nimier, ce qui est assez étonnant, ce qui est assez peu. Et puis, du côté de Nimier, parce qu'il entre chez Gallimard, enfin c'est l'une des explications, mais il y en a d'autres plus importantes, dès lors qu'il entre chez Gallimard, là ça devient, dès le 57, ils s'écrivent autant qu'ils s'étaient écrits pendant les 7 années précédentes, c'est-à-dire une cinquantaine de lettres, et en 61, par exemple, il y a 120 lettres. Donc il y a véritablement une correspondance intense, mais elle est faite de brièveté.
Ce sont des toutes petites lettres, et on le voit très bien dans la correspondance que vous avez éditée en 2015. Parfois ce sont juste des mots de quelques lignes, en général pour dire « je suis en train de lire ça, je serai à Paris à tel moment, pouvez-vous m'envoyer le service de presse de telle chose ?» Et puis je bois en ce moment un chardonnay de telle année. C'est à peu près ça la lettre.
Oui, enfin là, vous réduisez quand même à l'anecdote, alors qu'il y a quand même un peu plus d'intérêt que cela.
Non, bien entendu. Mais pour dire que c'est très bref, quoi.
Oui, c'est très bref, mais Tous les deux sont dans la concision et dans la brièveté. Donc, il y a là une sorte d'entente, dans une forme de virtuosité, parce que la brièveté n'exclut pas l'abondance d'informations et évidemment de sous-entendus. Et d'autre part, il y a quelques lettres beaucoup plus longues.
On y reviendra justement sur les lettres un petit peu plus longues, mais je parlais d'un trio tout à l'heure. On ne peut pas dire, cela dit, que les relations soient les mêmes entre Morand et Nimier et entre Morand et Chardonne. Pour Nimier, Morand constitue une figure paternelle que Chardonne ne constitue peut-être pas, Marc Dambre.
Oui, effectivement, les premières années, Chardonne est un peu une figure paternelle, enfin un peu, disons, par intermittence. Alors qu'avec Paul Morand et avec le temps, Morand va vraiment devenir un père. En même temps, comme vous avez pu le voir, il y a une sorte d'inversion des rapports. Nimier le dit lui-même, que Morand est un bon père pour lui, mais que lui-même est le père de Morand, ce qui peut paraître évidemment bizarre.
Dans quel sens alors?
Ben, dans le sens où il l'incite à écrire, il lui fait des commandes, il est très incitatif, très actif, et donc même Paul Morand, par moments, se plaint du fait qu'il le fait trop travailler, ou alors tout d'un coup, il se plaint parce qu'il ne fait pas assez travailler. Donc, en quelque sorte, Nimier a un peu les guides à ce moment-là. C'est pas dans ce type à ce niveau-là que ça se passe, parce que Nimier est plein de déférence à l'égard de Morand. Il ne confond pas, évidemment, quand il dit maître, ce n'est jamais une plaisanterie. Et donc, c'est ça qui est curieux, c'est qu'effectivement, il est à l'origine de certains livres, de beaux livres, comme Fouquet, par exemple. Alors que du côté de Morand, c'est pas tout à fait le même cas, sauf In Extremis avec D'Artagnan amoureux, qu'on peut dire en partie engendré par la générosité de Paul Morand, parce que tout simplement ils ont discuté un matin d'un livre possible, que ça se passait dans la maison de Paul Morand, et que avec cette ambiance-là, Nimier s'est ressenti en confiance. Et pour s'éprouver lui-même, il a fait ce galop d'essai qui est un hommage à son enfance, mais en même temps avec une réelle complicité avec Paul Morand, puisque l'une des lettres...
Et de l'affection aussi ?
Comment ?
De l'affection également ?
Ah bah oui, ça c'est sûr. De la part de Morand, d'ailleurs, de manière étonnante, ça s'exprime très directement. Vous êtes de manque dans mon cœur. Une fois, il l'attribue à Madame de Sévigné, une fois à Blaise Pascal, ce qui est assez amusant. Et puis il y a aussi le pastiche du cogito cartésien, hein. Je suis, donc je pense à vous. Ce qui est assez étonnant de la part d'un homme qui a une vie extrêmement riche, qui a 37 ans de plus que Nimier, c'est étonnant.
Et puis qui ne se livre pas beaucoup sur le plan des sentiments. Alors Chardonne, j'y reviens, tous deux lui ont donné un surnom, il s'appelle le solitaire.
Oui.
Pourquoi le solitaire ?
Pourquoi le solitaire ? Je pense que, étant à la frette, restant à la frette, effectivement, il se comporte un peu en ermite. Il prend le train pour la gare Saint-Lazare assez régulièrement, mais son port d'attache, c'est vraiment la frette, alors que Paul Morand est sans cesse en train de bouger. On ne sait jamais où il est, et ses projets sont extrêmement nombreux et se recomposent. Nimier lui-même a quand même une vie assez agitée, tout en ayant une vie extrêmement rangée en tant que conseiller chez Gallimard. À un moment, Paul Morand lui écrit « Votre ubiquisme m'effraie ». C'est un début de lettre. Bon, parce qu'avec sa voiture, ou bien pour le cinéma, il se retrouve à Milan ou à Venise, etc. Alors que Chardonne est un très sage.
Oui, un autre qui reste chez lui, c'est un quatrième personnage qu'il faut faire entrer dans ce cercle, quoique de manière bien plus extérieure, c'est Céline. Parce que pour Nimier, le grand écrivain, c'est pas d'abord Morand, c'est d'abord Céline. Et c'est d'abord Céline qui va essayer de réhabiliter.
Oui, c'est en 57, avec D'un château l'autre, C'est-à-dire que chez Nimier, depuis 1949, c'est-à-dire à 23 ans, voulait envoyer des vivres à Céline ou des moyens de revenir en France, de s'évader, etc. Puis Marcel Aimé lui dit « Envoyez-lui les épées ». Et à ce moment-là, il y a une sorte d'amitié littéraire avec évidemment une différence, là encore, et une déférence de Nimier. Et une fois que Nimier a des feuilletons littéraires ou qu'il est conseiller littéraire chez Gallimard, évidemment, il va écrire pour que Céline revienne en grâce dans les années 50.
Avec succès ?
Avec succès. Lorsqu'il arrive chez Gallimard, les choses vont assez mal avec Jean Paulhan. Jean Paulhan et Céline ne s'entendent plus. Et Nimier a écrit plusieurs articles marquant, par exemple à propos des entretiens avec le professeur Y, un classique, la littérature française est servie. Bon, et donc Gaston Gallimard pense que Nimier peut véritablement prendre la place. Et dès quasiment 6 mois après, Céline est de retour avec la fameuse interview de l'Express qui fait scandale, un voyage au bout de la haine, fait scandale, mais en même temps crée véritablement un intérêt autour de Céline qui va pouvoir faire sa trilogie avec Nord et Rigaudon.
Et alors si on continue de croiser les lignes entre ces différents personnages, il faut souligner aussi que chez Céline, il y a un intérêt fort pour l'écrivain qui était Morand. Et ça n'est pas évident quand on lit les deux écrivains, quand on met face à face les deux styles qui pourraient, a priori comme ça, n'avoir rien à voir.
Oui, il a des phrases très positives sur Morand. Je ne sais pas si ma citation est exacte, mais c'est le premier à avoir jazzé la langue française. Il dit quelque chose comme ça de Morand, ce qui est extrêmement flatteur. D'ailleurs, dans la correspondance Morand-Nimier, en 62, Nimier lui envoie, pour lui faire plaisir, des extraits des entretiens avec le professeur Indus, des phrases assez longues d'ailleurs. Et Paul Morand demande à Nimier s'il peut citer ces phrases dans le cahier de Lerne qui va être consacré à Céline.
Mais vous le comprenez, vous, que Céline s'intéresse au style de Morand qui, je le répète, est encore une fois très différent. Il a dit, à propos d'Ouvert la nuit, que c'était plus savoureux, plus nourrissant et beaucoup plus parfumé que la plupart de ce qui s'écrivait à cette époque-là.
Bah, je pense que le côté, la modernité de Morand avait quelque chose à dire à Céline dans une forme d'authenticité, de rythme qui était bien différent. Mais cette complexité des années 20 et des années qui avaient suivi la guerre, Céline les avait vécues à sa manière. Et Céline est très artiste, hein, vous savez, la danse, etc. Donc, en Morand, il voit une forme de poésie. D'ailleurs, Morand est aussi poète. Il a écrit de très beaux poèmes. Et donc, ça intéresse Céline. Parce que
donc, c'est pas
Morand
juste parce qu'ils sont réprouvés
tous les deux.
Ça va plus loin, c'est
absolument
une question littéraire.
C'est affaire d'écrivain et de style.
La compagnie des auteurs, c'est sur France Culture. Nous parlons de Paul Morand avec Marc Dambre et de cette correspondance Morand-Nimier que vous avez fait paraître en 2015 chez Gallimard. Entrons peut-être un peu davantage dans les plus longues lettres de cette correspondance et aussi dans ce dont ils parlent tous les deux. On peut dire qu'ils parlent de manière globale de la vie qui est finalement leur grand sujet, que ce soit dans les romans, comme on s'y attend dans leur correspondance, Marc Dambre.
Oui, c'est-à-dire que il y a deux sortes de longues lettres. Il y a ce que Morand appelle les lettres d'affaires, en s'amusant, mais en fait, il dit les lettres d'affaires, ce sont les premières lettres qu'on y mit arrive chez Gallimard.
On n'oublie pas les affaires quand même.
Non, forcément, c'est professionnel en quelque sorte, puisque officiellement, Nimier est quand même chargé par Gaston Gallimard de regrouper les œuvres qui mettront du temps, mais finalement, on est arrivé à la Pléiade bien, bien longtemps après. Mais en un sens, Nimier avait ça
après
en tête.
Mort, bien
parce
après
que pour lui,
mort.
Il disait à ce moment-là, il faudrait tout publier ou en livre de poche ou en Pléiade, pas d'entre deux.
Et oui. Il y a une lettre qui n'est pas une lettre d'affaires, dans laquelle est raconté, je crois que c'est Nimier qui l'écrit à Morand, le programme d'une journée qu'ils auraient ensemble et qui serait particulièrement dionysiaque.
Ah oui, enfin, il y a deux sortes de longues lettres, effectivement, de programmes de réjouissance. Il y a cette lettre de réjouissance diurne et nocturne à travers Paris avec Chardonne.
Donc deux jours sans dormir déjà.
Oui, c'est ça, avec un programme assez délirant.
Oui, on mange beaucoup, on boit beaucoup.
Voilà, et de temps en temps, la littérature pointe son nez. Puis il y a les autres longues lettres, ou alors on prévoit un voyage de 15 jours en voiture, à deux, Paris, Lisbonne, Paris, avec des stations plus ou moins littéraires, voir un tel à tel endroit, etc. Nimier le transforme en disant « je verrai plutôt Paris, Saint-Jean-de-Luz, Sète, Naples, puis l'avion en Sicile ». Et d'autres fois, c'est Paris-Munich. Enfin, et c'est effectivement accompagné de remarques gastronomiques, œnologiques et hôtelières, etc.
Et puis, évidemment, on parle littérature et on se donne des conseils de lecture aussi.
À quel...
Borges, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Il lui envoie Borges que... Enfin, Nimier envoie Borges à Morand. Morand l'a déjà lu dans l'original, mais il lui dit je vais le relire.
Oui, c'était d'ailleurs une lecture de Nimier lui-même. Il en fait un compte-rendu en 1951. Pas très long, mais il réagit à ce moment-là à fiction. Et donc, il y a effectivement... Derrière les simples demandes de services de presse ou autres, toute une complicité, mais aussi toute une recherche qui est à l'œuvre, puisque en même temps, Nimier a des idées de livres. Bon, il y a Fouquet, c'est vrai, et donc il y a toute la documentation. Il y a les préfaces, et donc pas mal d'auteurs, avec une bibliographie également. Et d'autres choses aussi qui ne sont pas forcément des livres, comme l'idée de adapter au cinéma Un amour de Swann. Donc il y a les deux, il y a les réjouissances, il y a un autre jeu qui est plutôt du côté de la création, comme je le disais tout à l'heure, Nimier qui obtient d'une certaine manière le Fouquet, qui est un beau livre, et puis Morand qui est d'une certaine manière à l'origine de D'Artagnan amoureux.
Bon, on pourrait aussi parler des voitures, ces voitures qui font 2 tonnes et qui, lancées à 180 à l'heure, n'ont pas de freins, parce qu'on leur met des freins de 1925. Je crois que c'est Morand qui écrit ça à Nimier, qui aime aussi beaucoup les voitures, trop sans doute, puisqu'il se tuera d'un accident de voiture en 1962. Et puis, le journalisme, on peut peut-être terminer par ça, Marc Dambre, et des conseils qu'éventuellement Paul Morand va donner à son élève, entre guillemets, qui est Roger Nimier.
Oui, il voulait le dissuader de faire du journalisme au tout début. Et Nimier retrouve la lettre quasiment 10 ans après en disant « j'aurais dû suivre vos conseils ». Et en fait...
Parce qu'il s'est finalement brûlé en donnant trop son opinion dans Paris, c'est ça ?
Je pense que son œuvre de journaliste est peut-être aussi importante que celle du romancier, hein, de journaliste et de critique littéraire, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Les journées de lecture, par exemple, sont un très beau livre. Et donc, on ne peut pas dire que le journalisme ait empêché Nimier d'écrire. C'est le moins qu'on puisse dire. L'élève d'Aristote, c'est un livre de journaliste, entre guillemets. Le problème, c'est que Nimier avait donné beaucoup de choses trop tôt et que, effectivement, il était en quelque sorte à sec, je pense, et ça devait repartir puisque ses lectures allant du côté de Joyce, ses maîtres, Céline, Joyce et Proust, mais bon, il avait 36 ans et ça n'est pas venu, il est mort.
La compagnie des auteurs. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Thank you.
Marc Dambre, vous restez avec nous. Je rappelle au passage que votre correspondance 1950-1962 entre Paul Morand et Roger Nimier est disponible chez Gallimard.